L'émission de littérature sur Radio Campus Orléans avec en direct et au téléphone Jérôme Vidal, le directeur de publication de la revue internationale des livres et des idées. Cette revue que l'on trouve dans les kiosques, le numéro de janvier-février 2008 vient de paraître, c'est le numéro 3, ça coûte 5 € et c'est une revue qui a fait un coup de tonnerre, je trouve, dans les publications actuelles, quand c'est sorti à la fin de l'année dernière. Donc là, le numéro 3, c'est une revue qui tient le coup et qui est essentielle. Merci beaucoup, Jérôme Vidal, d'être avec nous. Bonsoir. Par téléphone. Une première question générale. Quelle nécessité y avait-il en France de lancer une revue comme ça qui fait des recensions d'articles à la fois de livres à la fois en langue française et en langue anglaise et espagnole notamment?
Alors le projet de la revue correspond à une insatisfaction personnelle partagée par les personnes qui sont associées à ce projet avec moi, insatisfaction liée à l'absence de revue de ce format. Une insatisfaction rapport à l'offre de critiques de livres qui nous semblait l'offre grand public de critiques de livres qui nous semblait à la fois ne pas couvrir les livres publiés en France qui nous intéressaient et puis surtout la critique de livres en France en général s'intéresse essentiellement à la publication hexagonale. Il nous semblait important d'avoir un espace dans lequel rendre compte de la production intellectuelle, éditoriale, le monde entier, chez nos voisins en Europe, aux États-Unis et dans les pays de toute la planète, à vrai dire. Par ailleurs, autre souci, notre préoccupation était d'offrir un espace de rencontres, d'une part entre les chercheurs, les scientifiques et les personnes qui sont soucieux de la vie politique, d'autre part entre les différents courants de la pensée critique, le journal étant un journal assez engagé. S'efforçant d'offrir à ses lecteurs un espace dans lequel les différents courants de la gauche critique puissent dialoguer, mettre en relief, en avant, en évidence, pour ainsi dire, les points aveugles les uns des autres, en même temps que les points forts. Donc, refuser l'espèce de clôture et de fermeture de la vie intellectuelle en faisant circuler les savoirs de la politique, de l'université à la sphère publique et inversement, et ensuite entre les différents espaces, différentes sensibilités intellectuelles, assurer là aussi de la circulation, de la confrontation et essayer de frotter les silex de la pensée les uns contre les autres pour faire quelques étincelles.
Avez-vous un modèle dans le monde anglo-saxon sur lequel vous
très mal, à vrai dire.
Est-ce que vous aviez un modèle dans le monde anglo-saxon sur lequel vous appuyez pour créer cette revue?
Alors, l'inspiration de départ est effectivement anglophone, puisque il n'existait pas en France de revue équivalente au Times Literary Supplement, à la London Review of Books, ou à la New York Review of Books, ou à la plus récente Book Forum. Donc, ce sont des revues de tout à fait sur le dont nous nous sommes inspirés, des revues de format tabloïd qui sont consacrées essentiellement donc à des comptes rendus. Cela dit, notre revue se distingue assez nettement de son modèle, de ses modèles, puisque d'abord elle a un parti pris, une préoccupation critique, un engagement à gauche beaucoup plus marqué. Ses aînés anglophones, et par ailleurs elle peut se vanter d'être plus internationale que ces revues qui sont quand même elles assez centrées sur la production anglophone.
Alors, c'est international, et puis il y a des signatures prestigieuses. Je pense par exemple à la recension du dernier livre de Sloterdijk par Slavoj Žižek, d'ailleurs une recension plutôt polémique, plutôt critique.
effectivement, donc une recension de Zizek qui est dans, très dans le ton. Ça ne correspond pas exactement, à vrai dire. Elle est pas tout à fait représentative de ce que vous trouvez, ce que les lecteurs peuvent trouver dans la revue.
Oui, effectivement, elle n'est pas représentative.
Puisque bon, c'est vraiment une recension à la mode Zizek qui est donc polémique, plus sur la forme d'une tribune. Provocante qu'autre chose. Enfin, pour le reste, d'ailleurs, je partage assez sa lecture, mais disons qu'on n'a pas à faire un compte-rendu en bonne et due forme du livre de Soderbergh. Mais voilà, donc effectivement, dans le dernier numéro, un compte-rendu de ce livre par Zizek, de l'intervention d'Antonio Negri sur le dernier livre de Giorgio Agamben.
Il y a la recension de Daniel Ben Saïd, passionnante.
Surtout le texte important de Daniel Ben Saïd.
Sur Changer le monde sans prendre le pouvoir de John Holloway.
Changer le monde sans prendre le pouvoir, qui vient de paraître chez
Syllaps.
Un livre vraiment important, très discutable. Je suis assez d'accord avec les questions que soulève Daniel Ben Saïd.
Il en avait déjà parlé dans sa revue Contre-temps, quand le livre était paru en anglais. Maintenant, il est traduit et effectivement, il est pas forcément toujours en faveur avec ce livre. Il est aussi également très critique sur ce livre.
Exactement. Je vais peut-être pas exposer le contenu du livre. Son titre, en plus, était déjà assez parlant. Mais bon, l'approche de Daniel Ben Saïd consiste à relativiser, comment dire, la critique du pouvoir que véhicule dans une comment dire perspective libertaire John Holloway, qui est donc un des traducteurs, une des personnes qui s'efforce de traduire en théorie, en pensée. Le mouvement intermondialiste.
Et alors pourquoi en faire une revue papier dans les kiosques? Pourquoi pas faire cette expérience comme fait le site Non-Fiction, enfin Non-Fiction en France, qui fait également des recensions de sciences humaines, de sciences sociales à la fois français et anglo-saxon, et même parfois aussi des recensions critiques, même si c'est un ton résolument beaucoup moins à gauche que le vôtre. Pourquoi ne pas avoir fait monter un site internet?
Alors, d'abord, il existe un site internet que vos auditeurs peuvent visiter, www.revuedeslivres.net, sur lequel donc tous les articles ne sont pas en accès libre. Un certain nombre d'articles sont réservés aux abonnés de la revue, mais d'autres sont à peu près un tiers ou un quart des numéros sont en accès libre. L'article de Zizek que vous évoquiez est en accès libre, si je me souviens bien. Quel est l'état? D'abord, la comparaison peut-être avec nonfiction.fr, elle me semble pas judicieuse dans la mesure où nonfiction.fr a une prétention à l'exhaustivité que nous n'avons pas. Nous faisons des choix, nous avons des intérêts, des engagements, des préoccupations qui font que voilà, nous ne sommes pas une banque de données dans laquelle tous les livres possibles et imaginables seraient recensés.
Même si ça ne fonctionne pas dans le cas de Non-Fiction, parce qu'ils sont très très loin d'être exhaustifs, il y a quand même assez...
Oui, en tout cas c'était leur projet.
D'accord.
C'était énoncé, manifestement il y a un couplage avec la FNAC, et donc je crois qu'il y a une idée d'association, enfin je crois que c'est encore un peu flou, mais il semble qu'il y ait une sorte d'association... avec un élément de promotion de la production éditoriale à travers la critique. Donc là, on est dans un projet tout à fait différent. Il y a d'ailleurs, je ne suis pas convaincu par tout ce qu'on peut lire sur ce site, mais on y trouve des choses parfois intéressantes. J'aurais plutôt comparé ça, comparé notre projet à La Vie des Idées. Site lancé par l'équipe de Rosan Ballon, qui là est beaucoup plus resserré sur un certain nombre de travaux. Alors pourquoi en kiosque? D'abord parce que nous tenions à faire revue, donc à ce que les numéros aient une cohérence. Donc il ne s'agit pas d'avoir une succession d'articles proposés au jour le jour en ligne, mais nous souhaitions vraiment concevoir des numéros qui forment un tout. Ensuite, le proposer sous une forme papier parce que nous proposons une maquette particulière avec des artistes invités, des plasticiens invités, trois plasticiens invités pour chaque numéro. Et l'Internet, quoi que, qu'on dise, ne permettait pas du tout ce genre d'approche. Ça aurait été un tout autre objet. Donc là, la dimension papier est très importante. Par ailleurs, bon, il y a des raisons strictement économiques aussi. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout qu'aujourd'hui, une revue comme la nôtre aurait été viable, peut-être demain. Mais à ce jour, je pense vraiment pas qu'une revue comme la nôtre aurait été viable simplement en ligne. Et par ailleurs, les articles étant beaucoup plus longs que ceux que vous pourrez trouver dans... notamment nonfiction.fr, puisqu'ils font parfois jusqu'à 50, 70 000 signes, alors que l'article moyen que vous pouvez lire, je ne sais pas, dans le monde des livres ou sur nonfiction.fr, va faire 8 000, 10 000 signes au maximum. Donc là, on est dans un format très différent, et je pense vraiment que pour le confort du lecteur, une revue papier était absolument nécessaire.
Et alors, dans votre revue, on trouve également un peu de poésie contemporaine. On trouve un texte de Franck Lebovici et puis de Charles Pennequin, tous deux publiés chez les nouvelles éditions Aldante. C'était une envie aussi de mêler un petit peu de littérature expérimentale.
Alors, le souci de la revue, c'était mêler... comment dire, l'essentiel des articles sont des essais, c'est des comptes rendus qui prennent la forme d'essais, ont une dimension assez théorique, y compris quand ils parlent d'objets de création culturelle. Et notre souci, c'était à partir de là de diversifier au maximum les styles d'écriture, les types d'intervention. Alors ça a commencé par justement le refus, comme je le disais tout à l'heure, le refus d'avoir une iconographie qui serait illustrative. Donc cette perspective a été complètement balayée et, au profit de l'invitation lancée à des artistes qui interviennent dans la revue. La seule iconographie dans la revue, ce sont donc les productions de trois artistes invités. De même manière, nous efforçons d'avoir des textes de format un peu de style très différent, un entretien à chaque fois. Et puis là, nous avec les textes de Pennequin et les Bovici, nous avons choisi vraiment basculer dans un autre type de notre registre, d'autres manières d'écrire, d'autres mots, sans vouloir établir de véritables frontières. Donc il ne s'agit pas vraiment d'avoir la section poésie, où il s'agit plutôt d'établir un brouillage ou en tout cas un jeu d'écho entre des écritures de différentes. Donc la chose est amenée à perdurer et à même se compliquer justement en augmentant la présence de textes de statut différents et de nature singulière par rapport à ce qu'on attend habituellement d'une critique de livres.
Eh bien, merci beaucoup Jérôme Vidal, le directeur des publications de la Revue internationale des livres et des idées, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, bonne soirée à vous.
Je vous remercie.